Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Service.
Quelles sont les normes à respecter pour éviter les naufrages des embarcations? Monsieur Gabriel Mokango est notre invité ce matin. Bonjour, monsieur Gabriel.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le directeur technique à la régie des voies fluviales.
C'est bien cela.
On a appris que dans notre pays, les naufrages sont fréquents. Vous confirmez cela?
Oui, je le confirme. Surtout l'année passée, on a connu beaucoup de cas de naufrages dans notre réseau de voies fluviales.
Et pouvez-vous nous parler du dernier cas en date?
Bon, le dernier cas est survenu ce samedi. Il y a un convoi qui a aligné trois pousseurs de la société forestière Fodefort qui allait chercher du radeau dans la province de l'Équateur. Et c'est vers 4h30 que ce convoi a picoulé au kilomètre 7 du fleuve Congo.
Et le bilan, il y a eu beaucoup de morts.
Oui, bon, on ne saura pas le nombre. Il y a eu des morts parce que l'équipage, on a connu des morts parmi les membres d'équipage et certainement aussi de passagers clandestins qui s'y trouvaient. Beaucoup ont été coincés, bon, d'autant plus qu'on n'a pas encore procédé à l'opération de renflouement de ces unités, mais quelques corps ont été repêchés. Et je crois que le commissariat fluvial qui a le dossier en main pour établir toutes les circonstances de cet accident, pourra être plus lucide et puis nous donner le nombre exact de morts.
Bien, vous avez dit l'année passée, la RDC a battu le record des naufrages. Quelles sont les raisons, généralement, qui sont à la base de ces sinistres?
Bon, au niveau de notre ministère, la tutelle s'était beaucoup inquiété de ce cas. Récurrent de nos pages et il a initié quand même des séances de travail pour arriver à déceler quelles étaient les causes principales de tous ces cas de nos pages, mais on est arrivé à la conclusion que la cause principale était la non-observance de la réglementation.
C'est pas la cause principale. Alors parlez-nous à présent de cette réglementation. Quelles sont les normes à respecter pour une bonne navigation?
Bon, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. D'abord, le temps même de l'unité. Il y a le code fluvial qui est précis là-dessus, qui dit quel est le type de bateau qui est en état de naviguer sur notre réseau. Et le bateau doit respecter les normes de construction. Généralement, nous avons un chantier qui est titré le chantier de la sanité. Mais maintenant, avec la libération du secteur, les gens construisent le bateau n'importe où, même à la cité, qui ne respectent aucune norme. aucune norme. Parce que les spécialistes se sont fâchés dessus, ils ont trouvé que ça ne répondait pas.
Ça ne répondait pas aux normes.
Bon. Parce que quand le bateau n'a pas une bonne stabilité, une bonne assiette, et quand il y a une tempête qui se déclare, le bateau est en train de tanguer à gauche et à droite. Bon, la plupart de ces petits bateaux, quand il n'y a pas une barge ou à l'aise pour essayer de stabiliser, n'arrivent pas à naviguer très bien, surtout quand nous sommes sur le chenal. Bon, deuxième cause, c'est le surchargement. Le bateau a certains poids et l'armateur qui est le propriétaire souscrit une police d'assurance qui lui dit quel est le nombre de passagers qu'il peut embarquer. Mais généralement, le nombre que vous avez sur le manifeste, ce n'est pas le nombre,
de personnes qui sont, qui sont sur l'unité.
C'est seulement quand il y a un cas de naufrage, il y a accident, il y a mort. On essaie maintenant de voir que sous le manifeste, il y avait 50 personnes, mais on repêche
200 personnes. Gabriel Mokango, on va y aller rapidement. Maurice de Matadi vous demande quelle est la cartographie des voies navigables.
Bon, je ne sais pas qu'est-ce que la cartographie de voies navigables. Nous avons une carte du réseau fluvial. Le réseau fluvial n'a pas changé. Si toute la littérature technique et unanime de reconnaître que nous avons plus de 25 000 kilomètres de voies navigables, dont 15 000 classifiés et catégorisés. Ce sont les 15 000 qui reviennent à la régie des voies fluviales et la partie inférieure ou maritime à la RVM. Bon, la carte n'a pas changé. Mais du point de vue de l'hydrologie, il faut dire que la configuration n'est plus la même. Et nous avons aussi un problème climatique. Le même profondeur que nous avions à l'époque, nous ne les avons plus. Dans le bassin, nous connaissons une diminution de plan d'eau, qui est générale, qui est reliée à plusieurs causes, dont le changement climatique. Il y a aussi un problème d'assablement. À l'époque, le bassin versant n'était pas occupé. Maintenant, il y a des constructions qu'on voit par-ci, par-là. Et puis, il y a la déforestation. Ce qui fait que, quand il pleut, non pas seulement il y a ruissellement d'eau, il y a aussi entraînement de sédiments, donc de matériaux dits, qui viennent se déposer dans la vallée où coulent les eaux.
Donc, cela veut dire qu'il faut faire le balisage régulièrement.
C'est
long. Après combien de temps?
Bon, le balisage est cyclique. Hein. Nous avons des périodes de hautes eaux, de basses eaux comme des eaux moyennes. Mais généralement, c'est pendant les basses eaux que des conditions de navigabilité deviennent difficiles. Donc, d'où il faut que la RVS qui a en charge la pression de voie soit plus regardante, puisse faire son travail, poser les signaux de balisage, comme nous disons, pour que la navigation se fasse avec beaucoup de secrets.
Voilà, Maurice dit il veut en savoir plus à propos du projet de renforcement des capacités des capitaines. Il dit qu'il y a eu un projet dans ce sens-là.
Oui, mais c'est comme je venais de vous le dire tout à l'heure, là, au niveau de l'Afrique centrale, Sikos en a fait son cheval de bataille. C'est comme ça qu'il a réhabilité avec le financement de GIZ le centre qui appartenait à l'époque à l'ONATRA. Maintenant, on l'a débaptisé Centre régional de formation en navigation intérieure, qui ne va pas seulement former les Congolais de la RDC, mais les Congolais d'en face, des Centrafricains, des Camerounais, donc tous ces pays avec qui nous partageons le bassin du Congo. Mais jusque-là, il n'y a que quatre pays qui y participent de manière le plus efficace. Bon. Pourquoi pas de femmes?
De femmes capitaines. Bon, alors il dit qu'à Mbandaka, il a vu des femmes qui, avec leur pirogue, pirogue.
Bon, c'est une question de volonté. Hein. On ne fait pas de discrimination, on respecte le genre. Dernièrement, moi-même, j'étais à la cérémonie de remise de brevet. Je vis avec quelques mamans.
Tout ça, c'était où, à Mbandaka?
Non, ici, à Kinshasa.
À Kinshasa, oui. Au centre de formation.
Au centre de formation. Quelques mamans qui travaillent dans les administrations. De transport fluvial, notamment à la direction de la marine, même quelques opérateurs privés que nous appelons armateurs qui ont des unités, qui s'intéressent maintenant à connaître quand même l'administration sur le plan de la navigation. Ces mamans-là qui sont en Mbandaka qui conduisent les pirogues seront les bienvenus au centre. C'est question de prendre l'inscription. On ne va pas faire le remplissement des conditions requises. Je crois que le directeur du centre va les accepter avec beaucoup de joie. Et nous serons contents de compter des femmes parmi le personnel navigant.
Voilà, quelle est la durée d'une pirogue?
Bon, s'il parle pirogue comme tel, je ne saurais pas, mais baleinière, qui part de bois scié, la durée de vie est de 3 ans. Si on peut aller plus de 5 ans. Au-delà de ça, l'unité doit être hors trafic.
Une pirogue, vous n'avez pas l'idée?
Non, le pirogue, c'est fabriqué avec des troncs d'arbres et de plusieurs spécimens. Hein.
Ça veut dire que ça peut durer longtemps.
Ça peut durer longtemps, c'est oui. Ce qu'on voit.
Alors, lui, de Kikwit et Jean-Claude, ils sont revenus sur cette question, l'impunité que fait le gouvernement. On corrompt les agents du ministère des régimes de pouvoir fluvial, tout ça. Et il dit c'est beaucoup plus la sauchage qui est à l'origine des accidents que nous déplorons aujourd'hui. Hein. Quelle est la part de l'État dans tout ça?
Et je voudrais préciser une chose. Je participe à l'émission en tant que directeur technique de la régie de voies fluviales qui a en charge l'entretien. Donc, quand il y a
toutes ces questions-là, ne vous concernent pas.
Non, nous nous limitons à l'aspect entretien. Donc, la réglementation se
la direction de la marine qui le fait, qui doit faire respecter la réglementation. Il joue le rôle de l'inspecteur de la navigation. Il y a impunité, oui, tout le monde le remarque. Je vais passer à côté si je n'approuve pas ça,
oui.
Mais il appartient que les gens soient aussi dans les bonnes conditions de travail pour bien faire leur travail.
Voilà. Nous poursuivons. Quelles sont les normes à respecter pour éviter les naufrages des embarcations? Oscar Ngungu nous appelle de Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Oscar?
Oui, je voulais un peu demander à notre invité. Il a parlé de la libéralisation du secteur. Depuis qu'on a libéralisé ce secteur, maintenant il y a des naufrages en cascade. À tout moment, on déplore partout par là, tantôt dans à l'est, tantôt à l'ouest, partout dans le pays, on parle de la même situation. Mais on constate l'État qui devrait prendre ses responsabilités, c'est le même État qui libéralise les secteurs. Qu'est-ce qui a été à la base de cette libéralisation du secteur et qui est maintenant à l'origine de plusieurs naufrages? En dehors de ça, pour avoir travaillé dans certains services qui avaient trait aux embarquements, tout ça, nous avions constaté que, en principe, après quelques temps de navigation, l'embarquement devrait subir le contrôle technique. Mais certains ports qui étaient habilités à faire ce genre de contrôle sont aujourd'hui supprimés. Ça signifie quoi? Un bateau qui quitte, par exemple, les bancs de l'usine, et qui devrait subir le contrôle à Mouchi, mais à Mouchi, on s'arrange, les marins s'arrangent et en pleine rivière, ils vont rencontrer les bateaux et ils s'arrangent là-bas. Dès qu'ils reçoivent quelque chose, on laisse passer l'embarquement. Et un bateau qui va naviguer nuitamment sans beaucoup de conditions, et quelques temps après, on vous apprend qu'il y a eu un naufrage. Oh, il y a eu ceci. Alors, nous constatons que tant qu'il n'y a pas du sérieux dans ce secteur,
je
pense que l'État devrait prendre les responsabilités
au lieu
de libéraliser le secteur.
Bien, merci. Merci, Oscar. Voilà, merci beaucoup, Oscar. Monsieur Gabriel Montango, on a suivi les contrôles techniques. Comment ça se passe?
Bon, là, il faut dire qu'il y a deux facteurs. Il y a le contrôle technique purement administratif. On regarde si l'unité a des titres de propriété, notamment le certificat de navigabilité, dans lequel il est indiqué l'état du bateau. Et il y a le certificat d'usage que le constructeur délivre à l'armateur. Ça, ce sont des contrôles de routine. Mais le contrôle purement technique, c'est que le bateau doit aller à cale sèche. Donc, le bateau doit aller sur un slip way, il y a là la chenille, à l'Onatra, même à la RBS. On peut sortir le bateau dans l'eau. Et on contrôle le cadre de la coque. Vous savez, la coque est faite de tôle naval en acier. Généralement, on met des tôles de 6 mm. Mais puisque le bateau reste dans l'eau, il y a la corrosion. Et il peut arriver après 5 ans. Le PCR qu'on avait de 6 mm, c'est un merci et il ne restait que 2 mm.
Mmh.
Ça constitue un danger. C'est là qu'on demande au propriétaire de procéder au carénage. Total ou partiel, c'est selon l'état. Et on doit voir aussi l'état des autres parties du bateau. Mais ces genres de contrôle ne se font pas. Les gens croient que...
Procéder au carénage, cela veut dire quoi?
Donc, on remplace les tôles qui sont défectueuses.
Par
de nouvelles tôles.
De nouvelles tôles, oui.
Mais généralement, quand vous sillonnez tout le sentier naval ici, vous allez voir peu sont ceux qui font le carénage avec de nouvelles tôles. Parce que ça coûte cher. Les gens préfèrent utiliser des tôles de réemploi. Donc, les vieilles unités désaffectées qui sont déclassées, on va découper des tôles et on veut mettre là-bas. Mais ces tôles ont déjà fait leur temps, quand on veut mettre là-bas, on n'assure pas une longue durée de vie à l'unité. Donc, le contrôle doit se faire. Et quand vous lisez le code civil, c'est bien prescrit.
Donc, ça doit se faire après combien de temps?
Généralement, quand c'est une unité neuve, Après 5 ans, on peut procéder avec autre provisoire. Mais l'unité peut tenir pendant 10 ans. Après 10 ans, la tôle ne peut plus présenter la même épaisseur.
Alors dites-nous, quelles sont à présent les normes à respecter pour naviguer en toute sécurité?
Bon, les normes, c'est quoi? D'abord, l'unité doit présenter un état de sécurité. Donc, a été construite suivant les normes prescrites. D'aider, est-ce qu'on a respecté le chargement? Il y a des lignes de marque des francs-bords que l'unité ne peut pas dépasser. Et il doit laisser au moins 20 à 30 cm. Ça permet à l'unité d'avoir une marge de flottabilité. Mais quand vous chargez, en plus parce que vous voulez avoir l'argent, l'unité n'a plus le temps d'avoir une marge de flottabilité.
D'abord, vous chargez les marchandises, oui. Et puis en dessous, et puis les passagers.
Vous voyez que
la surcharge,
bon, ça peut tanguer, ouais. Et puis se renverser. Donc, on peut connaître le cas de dérive. Il y a encore le problème que je pourrais épingler ici. C'est le problème de balisage. Ça, c'est évident. Il faut que le balisage soit assuré. Ça, c'est de l'apanage de la régie de voies fluviales. Pour le faire, il faut que la régie dispose de moyens. C'est une entreprise de l'État. Pour faire son travail comme il faut, comme on le voit dans le secteur routier, avec l'office des routes et l'OVD.
Et certains disent que les bateaux doivent aussi avoir des bouées, des gilets, oui. Peut-être des canons. Rapide, en cas de danger, on sait comment évacuer. Disons.
Oui, ça c'est dans des précautions parce qu'il y a toute une disposition de sauvetage. Les bateaux doivent avoir des coffres de sauvetage pour le personnel qu'on a embarqué, surtout si ce sont des passagers. Les bateaux doivent avoir des bouées de sauvetage. Quand quelqu'un tombe dans l'eau, on peut lui jeter ça pour le récupérer. Le bateau doit avoir une motopompe. À quand il a cogné sur un cordis et qu'il y a infiltration d'eau, on doit actionner la motopompe pour évacuer l'eau, chercher l'endroit où il y a le trou, essayer de colmater, faire ce que nous appelons dans le jargon le bâtard d'eau. Mais beaucoup de bateaux n'en ont pas. Le bateau doit avoir des touques de ciment de prise rapide. Donc ce sont les genres de ciment. Quand vous mettez, même à contact de l'eau, ça se solidifie. Et ça permet d'arrêter
l'infiltration.
Mais ça, ce sont des choses qui doivent être contrôlées au départ. Avant que le bateau n'apparaisse, ne quitte son port, le préposé de l'État du commissariat doit s'assurer que tout ce matériel se trouve bel et bien à bord de l'unité. Quand ce matériel ne se trouve pas, il peut interdire que le bateau ne quitte. Mais comme ils ont dit, tout le monde, c'est l'impunité, moyennant quelques billets.
Quelques billets, ils ferment les yeux, ils laissent
le bateau part sans qu'il y ait. Bon, même s'il devait y avoir tout ce matériel, j'ai craint, une baleinière qui transporte 200 personnes, que cet armateur ait acheté 200 conseils de sauvetage. Donc, je pense que ce sont des réponses qu'ils
évitent.
Ils préfèrent plus amasser de l'argent que le faire sortir pour assurer la sécurité des personnes.
Bien, on va y revenir prochainement, M. Gabriel Mokango. Nous rappelons que vous êtes le directeur technique à la régie des voies fluviales. Merci et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup. Merci, votre mission m'a plu beaucoup.